Alors, on peut se poser toutes sortes de questions dans la vie. Et tout commence lorsque les enfants commencent à grandir dans la maison. N'est-ce pas? Mais avant que les enfants commencent à grandir dans la maison, il fut un moment quand un couple a compris la part de Dieu, que c'était la volonté de Dieu qu'ils soient unis dans les liens du mariage. Ok? Alors, Carole et Michael, venez s'il vous plaît. Une petite mise en situation. Alors, vous allez vous rappeler, hein, le jour que vous êtes mariés. Vous vous êtes mariés le 3 juillet 2010. Ça va faire 7 ans, hein, cette année. Vous vous rappelez, hein? Donc, alors, une petite mise en situation, d'accord? Alors, Carole est rentrée avec son oncle, n'est-ce pas? Voilà, on était tous donc dans un domaine, voilà, dans le nord. Alors, il est rentré dans son oncle, et quand ils sont rentrés, quand ils sont venus vers le devant, c'était à l'extérieur, il y avait un gazon vert extraordinaire. Alors, témoigne par rapport à la pluie, hein, comment Dieu nous a gardés. Vas-y.
C'est vrai que la veille, non, il avait fait très très chaud, et comme c'était à l'extérieur, on s'est dit ça serait bien qu'il fasse un peu moins chaud le lendemain. Et le lendemain, il y a une pluie torrentielle presque. Enfin, c'était tout le monde m'appelait, me disait mais qu'est-ce qu'on fait? On installe à l'extérieur parce que c'était un mariage qui était prévu à l'extérieur. Et donc je savais pas trop. Et ce jour-là, j'ai eu Denise qui m'a appelée. J'étais le coiffeur, je m'en souviens bien. Et elle me dit écoute, sois tranquille, il n'y a pas de souci, tout va bien se passer, ça va aller. Et donc après, tout le monde m'a appelé pour me dire « Bon, bah écoute, qu'est-ce qu'on fait ? On t'a laissé un petit temps de réflexion et tout. » Je dis « Non, on installe dehors, il ne va pas pleuvoir, la pluie va s'arrêter. » Et donc voilà, effectivement, il n'a pas plu, il a fait très beau, il a fait un temps, enfin le temps qu'il fallait.
Extraordinaire. Très
bien. Alors donc, ils sont rentrés. Alors, toi, tu étais rentré avec ta soeur. Et donc... Comme c'est l'habitude ici, ça peut-être c'est pas l'habitude dans toutes les églises, mais on commence par une petite introduction. Et voilà donc, on commence. Mes bien-aimés, nous sommes réunis ici en présence de Dieu et de vous, cette assemblée, pour unir ou pour confirmer l'union de Carole et Michael dans le saint état du mariage que l'apôtre Paul recommande comme un état honorable entre tous. C'est pourquoi l'on ne doit pas s'y engager avec imprudence ou avec légèreté, mais il faut y apporter la révérence, la discrétion, la réflexion et la crainte de Dieu. Carole et Michael ici présentent des désirs formés entre eux, cette sainte union. Donc si vous avez assisté à des mariages ici au sein de notre église locale, on a un moment de prière, une introduction de prière, on a un temps de louange, ensuite il y a un court message, 12 minutes maximum à peu près, 13 minutes, pas trop long. Parce que vous savez, il y a des gens inconvertis qui assistent au mariage. On ne veut pas qu'ils se sentent qu'ils sont pris en otage. Hein. Donc voilà, il faut faire très attention. Grande a été ma surprise en 1989, le 6 juin, on bénissait un couple ici, au sein de l'église. Et alors, bien sûr, elle a répété, « Je suis prêt à t'obéir. » Il y a eu des membres de la famille, non convertis, qui se sont levés en pleine cérémonie. Ils m'ont contesté. Mais ils n'étaient pas du tout contents. Pourquoi? Parce que la soumission et l'obéissance, ça c'est du passé, ça c'est à l'ancienne, etc. Donc bien sûr, au lieu de prêcher 45 minutes, je me suis dit, mais ça serait mieux de prêcher, voilà, d'être direct. Donc après le message, il y a un moment quand on passe au vœu. Alors, ce n'est pas des vœux qu'on prend à la légère. Ok? Donc ces vœux, donc c'est le pasteur, la personne qui est en train de faire la cérémonie, qui pose la question. Donc, tu me regardes quand je te pose la question, vous me répondez, et ensuite, vous allez vous répéter vos vœux, donc, classiques. Vous avez choisi, je me rappelle, les vœux classiques. Et, alors, Michael, hein, veux-tu prendre comme épouse et vivre avec elle, selon l'ordonnance des dieux, dans le saint état du mariage? Carole, veux-tu l'aimer, la chérir, l'honorer et la garder en temps de maladie, en temps de santé. Et renonçant à toute autre femme, veux-tu t'attacher à elle seule tant que vous vivrez tous les deux ?
Je le veux.
7 ans après, je continue à le vouloir. Carole, veux-tu prendre Michael comme époux et vivre avec lui selon l'ordonnance des dieux, dans le saint état du mariage ? Veux-tu lui obéir, le servir, l'aimer, l'honorer et le garder en temps de maladie, en temps de santé ? Et renonçant à tout autre homme, veux-tu t'attacher à lui seul tant que vous vivrez tous les deux ?
Oui, je le veux, toujours.
Et Carole, en regardant Michael, plus moi, c'est avec lui que ça se passe.
Moi, Carole,
te prends Michael,
comme mon mari et époux,
pour t'avoir et te garder, à partir de ce jour,
et à l'avenir,
pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer et te chérir,
jusqu'à ce que la mort nous sépare,
selon la sainte ordonnance de Dieu. J'en fais le serment. Michael, regardez-moi dans les yeux. Moi, Michael.
Te prends Carole.
Comme ma femme et épouse.
Pour t'avoir et te garder.
À partir de ce jour et l'avenir. Pour le meilleur et pour le pire. Dans la richesse et dans la pauvreté. Dans la santé comme dans la maladie.
Pour t'aimer et te chérir.
Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte ordonnance de Dieu. J'en fais le serment. Merci. Alors, vous dites, mais Marc, mais pourquoi est-ce qu'on revient à la cérémonie ? Ça nous fait penser à ce que nous, on a vécu, peut-être on a oublié, peut-être on se remémore une fois par an. Mais les questions auxquelles on a essayé de répondre ces 3 derniers jours, lorsque on va de l'adolescence vers l'âge adulte, une orientation pour t'aider à faire des bons choix, de gagner le contrôle de ta vie avec l'aide de Dieu et regarder ton avenir avec espérance. La question auxquelles on va essayer de répondre, comment comprendre ce que je vais faire de ma vie ? Qui suis-je ? Avec ma personnalité, avec mes points faibles, mes points forts ? Suis-je prêt à faire face à la vie adulte ? Rencontrerai-je la personne qui va m'accepter tel que je suis, avec mes défauts et avec mes points forts et mes points faibles ? Si oui, quel genre de conjoint vais-je rencontrer ? Comment vais-je trouver ? Notre amour durera-t-il une vie entière ? Et quoi de ma vie professionnelle ? Dois-je suivre une carrière particulière ? Dois-je faire des études supérieures, bac plus 2, bac plus 7 ? Resterai-je célibataire ? Et Dieu dans tout cela, puis-je le placer au centre de mes projets ? Comment connaîtrai-je sa volonté ? Et mes émotions ? Comment les gérer ? Comment arriver à les maîtriser ? Comment me trouver un jour devant Dieu et entendre de sa part « Tu as été fidèle dans ce que tu es de ta personne. Tu as été fidèle à, une fois que tu as accompli le salut, à faire rayonner de ta vie la lumière de Christ. Tu as été fidèle à l'appel que j'ai fait toute ta vie. Tu as été fidèle à obéir. Tu as été fidèle de ta jeunesse, à te souvenir de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant qu'en arrivent les jours dans lesquels tu te lamentes de ton existence et tu dis à quoi ça sert de vivre. Tu as été fidèle à toujours inclure la crainte de Dieu dans ta pensée, dans tes pensées, dans ton cœur. Tu as été fidèle en tant que mon ouvrier, qui ont été fidèles en tant que ce jeune qui, depuis sa jeunesse, a appris qu'il est bon pour les jeunes hommes de porter un joug dès sa jeunesse. C'est pour cela que Dieu a placé des parents dans nos vies. Il a placé des parents qui sont exigeants, des parents qui nous montrent qu'il y a une discipline à avoir, des parents qui nous disent les devoirs passent avant tout, des parents qui disent tu n'es pas obligé d'avoir un 20 sur 20 ou un 18 sur 20, mais fais de ton mieux. Et moi, je serai fier de toi parce que je sais que tu aurais fait de ton mieux. C'est pour ça que la discipline est tellement importante dans notre vie. Et alors, on a parlé de la discipline, on a parlé donc de comment justement faire des choix. On a parlé aussi de comment être à l'écoute de la voix de Dieu. Premièrement, en nous basant sur sa parole. Et ensuite, en voyant comment Dieu attire la personne vers nous ou nous montre qui est la personne qu'il a préparée pour nous. La Bible dit en Proverbes chapitre 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il ne dit pas celui qui cherche une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Moi, j'ai préféré laisser à Dieu la tâche de me la trouver. Et ensuite, moi, j'ai pu aussi la trouver. Le 19 juin 1976, le 21 juin 1976, le 22 juillet 1978, jour de notre mariage. Mais cela avait été confirmé dans mon cœur, Dieu avait fait le choix. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, ce n'est pas celui qui cherche. Celui qui trouve. Celui qui trouve, qui attend d'écouter la voix de Dieu. Et en écoutant la voix de Dieu, un jour, il se rend compte que c'est un plaisir et une joie de pouvoir vivre selon la volonté de Dieu. Alors, après ceci, le moment vient quand, une fois le mariage, c'est dans le plan de Dieu. Vous savez, des fois, quand je parle avec des couples, je leur dis, et si, une fois marié, vous n'arriviez pas à pouvoir procréer des enfants, est-ce que vous seriez prêt à aller jusqu'à l'adoption? Parce que vous auriez un désir d'être papa, d'être maman. Et bien sûr, ce n'est pas facile. Mais il y a des personnes qui ont dû choisir cette option. Parce que dans le plan des dieux, ils n'ont pas pu donner naissance à des enfants personnellement. Et vous savez, un couple qui n'a pas d'enfants, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bénis de Dieu. Un couple qui n'a pas d'enfants, ça ne veut pas dire qu'ils sont des citoyens de deuxième classe. Vous savez, la composition de ce que nous sommes, notre corps, ce que nous sommes, Dieu sait, mais il y a des personnes qui peuvent avoir des enfants, il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas avoir des enfants. Il faut être très très sensible. Parce qu'il ne faut jamais, jamais que des personnes se sentent qu'il passe en dernière dans le cœur de Dieu. Et il y a eu plusieurs sujets qu'on a abordés pendant ce temps, hier. Plusieurs sujets qui étaient délicats. On a parlé des dangers de se laisser aller à ses pulsions. Le danger de... Pourquoi l'Église prêche l'abstinence sexuelle avant le mariage. Et pourquoi nous ne dépendons pas l'un de l'autre en tant que couple, mais nous dépendons de Dieu. Parce qu'un couple ne peut pas se suffire à 100% et se combler à 100% l'un à l'autre. C'est impossible. On est imparfait. On est des humains. Et alors, le monde vient quand un enfant vient dans la maison. Quel est l'engagement qu'un parent doit prendre envers son enfant? Alors, je ne veux pas mettre Esther dans l'embarras, mais tu peux venir s'il te plaît. Esther, tu veux venir? Parce que c'est notre enfant qui est ici. Et Denise, tu peux venir aussi. Et moi, j'aimerais lire cet engagement. On a déjà lu cet engagement à plusieurs reprises ici, dans notre église locale. Et on encourageait les parents à chaque fois à prendre un engagement envers leurs enfants. Nous avons 7 enfants. Esther est la seule qui est ici, donc à Paris, et ici au sein de l'église locale, aujourd'hui. Deux de nos enfants sont en Floride et en Alabama. Michael, il est aux États-Unis, à Seattle. Et on a trois filles qui habitent le Havre. Mais on a toujours pris cet engagement. Et donc, j'aimerais vous inviter à la fin du culte de venir me demander donc, une feuille d'engagement et de le faire avec vos enfants lorsque vous arriverez à la maison. OK? Alors, à ma Esther, bien-aimée, moi, ton papa, ta maman, m'engage à toujours t'orienter vers Dieu et sa présence dans ta vie. Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Je te conseillerai et j'aurai mon regard sur toi. C'est l'attitude que Dieu avait envers David. Et c'est un peu aussi un verset qui montre l'attitude qu'un parent peut avoir sur son enfant. Depuis sa naissance. Et même avant la naissance. Je me rappelle avant la naissance, chacun de nos enfants ont prié pour l'enfant. On priait pour que Dieu façonne, pour que Dieu prépare son cœur, pour que Dieu touche son cœur à un âge très tôt dans sa vie. Par notre exemple, je veux que tu saches qu'il est possible de vivre pour Dieu dans une consécration totale, selon la parole de Dieu. Dans un contexte de repentance et pardon, en apprenant à pardonner ainsi que savoir comment demander pardon. À partir de ce jour, nous nous tiendrons à ta disposition pour être à ton écoute et pouvoir répondre à toutes tes questions sur la vie et la foi. Et cela avec l'aide de Dieu, notre Père et notre conseiller. Nous voulons que par notre vie, tu puisses connaître un vrai amour et une affection sincère, afin qu'à ton tour, tu apprennes à aimer ceux qui sont et qui seront par la suite dans ton cercle intime. Nous nous engageons à prier pour toi chaque jour, pour que Dieu te garde sur son chemin et que tu restes pur dans ton témoignage. Ainsi, tu seras un bel exemple à suivre pour tes enfants le jour venu. Nous nous engageons à t'apprendre à aimer la parole de Dieu au-dessus de tout. Te promettons que c'est par la lecture et la compréhension de celle-ci que tu arriveras à extraire les trésors qui s'y trouvent. Dieu te les révélera par ses promesses, que tu expérimenteras dans ta vie par l'obéissance. J'espère et nous espérons que tu veilleras à toujours mettre en pratique sa parole, car en le faisant, tu réussiras ta vie. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Nous t'aimons Esther et nous remercions Dieu pour ta vie. Alors, quand on lit un engagement comme celui-ci devant les enfants ont le droit de nous poser toutes sortes de questions. Quelles sont les premières questions qui sont posées? La Bible dit en Deutéronome, chapitre 6, versets 17 au 25, « Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ses préceptes, ses lois et ses ordonnances, que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrit, tu diras à ton fils. » C'est-à-dire, le moment viendra quand ton fils va te poser des questions. Dis papa, maman, pourquoi allons-nous au culte tous les dimanches? Dis papa, maman, pourquoi prions-nous à haute voix? Dis papa, maman, pourquoi levons-nous les mains? Dis papa, maman, pourquoi adorons-nous Dieu? Dis papa, maman, pourquoi on célèbre la Sainte Cène? Dis, papa, maman, pourquoi donnons-nous l'offrande? Dis, papa, maman, pourquoi donnons-nous une telle importance à la lecture et l'étude de la Bible? Lorsque ton fils te demandera, tôt ou tard, ton fils va te demander, va te poser des questions. Que vas-tu lui dire? Tu diras à ton fils, et vous pouvez lire la suite, Deutéronome 6, 17 au 25. Prenez le temps de répondre à ces questions. Prenez le temps de montrer à vos enfants que tous les actes que vous commettez en tant qu'enfant de Dieu, toutes les actions, les gestes, les attitudes que vous pouvez avoir face à la parole de Dieu, au sein d'une église locale comme la nôtre, il y en a des centaines et des centaines en région parisienne. Chaque église, elle est différente. Chaque église va mettre l'accent sur un point particulier. Mais tôt ou tard, l'enfant va poser des questions qui vont nous faire parfois faire des recherches. Ils vont nous faire parfois encourager l'enfant. Mais alors, tu sais, il y a un verset formidable ici. On va le mémoriser ensemble. Et en tant que famille, on a un culte. On a un culte familial, on a un temps dans lequel on peut parler des choses spirituelles. Je vous ai parlé que malheureusement, à l'église chinoise, la tristesse, c'est que beaucoup des parents, la plupart des parents, ne parlent pas à leurs enfants des sujets spirituels. Je dis, mais si ce n'est pas les parents qui peuvent répondre à ces questions, si ce n'est pas les parents qui vont s'intéresser à la vie spirituelle de leur enfant, mais qui va le faire? Moi, je vous encourage, parents, vos enfants sont de l'argile. Ils sont fragiles. Et c'est à vous, en tant que parents, de répondre aux questions. C'est à vous, en tant que parents, même de dire, bon, je ne sais pas, je vais faire des recherches, mais je t'assure, on va avoir une réponse à ta question. Alors, dans l'engagement que nous venons de lire, nous nous engageons à prier pour nos enfants. Nous nous engageons à les conduire donc sur la voie qui les mène à Dieu. Et grande a été notre joie quand nos enfants ont commencé les uns après les autres à dire « Je veux Jésus dans mon cœur ». Pour Brian, c'était le 16 juin 1985. Il venait d'avoir 5 ans. C'était le jour de la fête des pères, après le décès de mon père. Moi, j'étais aux États-Unis. Et j'appelle donc Denise, parce qu'elle ne pouvait pas me contacter, qu'il n'y avait pas de portable ni rien de ça, donc il fallait que moi j'appelle. Et donc j'ai appelé, et là elle me dit, tu sais, c'est le jour de la fête des pères, Brian vient de donner son cœur à Jésus. Le jour de la fête des pères. Mon père venait de décéder, moi, c'était moi qui étais maintenant à la tête de la génération, quant à ma famille, et quelle joie de savoir que Brian avait donné son cœur à Jésus. Le 31 octobre 1986, Monique, c'était à la fin d'un enterrement. Il avait une sœur qui est décédée en donnant naissance. Son bébé a survécu, mais Ruth, elle, est décédée. Et on a fait l'enterrement ici, dans l'église. Et nous sommes partis au cimetière. Et Monique et Denise sont restés à la maison. Et là, Monique avait été interpellée au moment de le cercueil, la mort, etc., etc. Et ce jour-là, elle a posé des questions à Denise. Elle a donné son cœur à Jésus-Christ. C'était donc le 18 avril. Donc, 91, qu'Esther a donné son cœur à Jésus. C'est Brian qui a prié avec Ruby le 19 mai. 93, on était dans un camp, dans une colonie de l'armée du salut, et ils étaient en train de se promener, de jouer, et tout d'un coup, le questionnement sont venus, et quand Brian est revenu, il nous a dit, j'ai prié avec Ruby, elle a donné son cœur à Jésus. Rachel, c'était le 17 mai de l'année en 89, donc ça doit être 93 à peu près. Elle a donné son cœur à Jésus. Sarah, c'était en décembre, juste après son anniversaire réel, donc en 1994, qu'elle a donné son cœur à Jésus. Et Michael, le 12 avril 97, il allait avoir 5 ans. Donc 98, pardon. C'était le jour de Pâques. Et là, j'avais donc ce jour-là choisi de mettre tous les enfants devant, sur des petites chaises. On avait beaucoup, beaucoup d'enfants à l'époque. Et j'ai parlé de comment Jésus est mort sur la croix. Comment ses mains ont été transpercées. Comment ses pieds étaient transpercés par un clou. Comment son cœur a été transpercé par l'épée. Comment il a porté cette couronne d'épines. Pourquoi? Parce que nos pensées étaient mauvaises. Nos mains faisaient ce qui était incorrect. Nos pieds marchaient sur des chemins tordus. Notre cœur était ténébreux. Et voilà, on a parlé du sacrifice de Jésus, ensuite de la résurrection. Et à la fin, j'ai fait un appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Christ en son cœur? Il y a eu un petit garçon de 6 ans qui a levé la main, qui a dit, moi je veux recevoir Christ dans mon cœur. Et là donc, il est passé devant, on s'est mis, moi je me suis assis sur une chaise bleue, le papa aussi, et lui aussi, et il a donné son cœur à Jésus. Et Michael était là dans les parages, il observait. Regardez. On a prié pour le petit. C'est pas insignifiant qu'un enfant donne son cœur à Jésus. Moi, j'ai entendu des pasteurs me dire, ah, mais c'est du bidon que les enfants se donnent à Christ à 5 ans et 6 ans. C'est pas possible qu'ils le fassent. C'est pas possible que ça soit du vrai. C'est pour ça, malheureusement, qu'il y a des personnes qui ne valorisent pas les choix que les enfants peuvent faire par rapport à leur vie spirituelle. Récemment, à l'église chinoise, il y avait un garçon de 18 ans qui voulait tellement se faire baptiser. Mais les parents lui ont dit, mais de toute façon, tu vas rétrograder, tu vas abandonner Dieu quand tu auras 22. Non, ça ne vaut pas la peine que tu te baptises. Quelle tristesse de penser que je ne peux pas passer ma confiance dans la parole de Dieu que mes enfants ont reçue. Et alors, le soir de ce 12 avril, donc on revenait de faire une visite, les enfants j'étais avec 3 ou 4 enfants, Michael était avec nous. Et tout d'un coup, dans la voiture, il dit, papa, et quand est-ce que tu vas prier pour moi? J'avais 4 ans et 8 mois. Je dis, mais pourquoi tu veux que je prie pour toi? Parce que moi aussi, j'ai besoin de Jésus. Parce que Jésus aussi, il est mort pour moi. Et on est arrivé à la maison, on s'est mis tous à genoux dans le salon, tous les 9, et Michael a donné son cœur à Jésus. Et pour nous, c'est important de retenir ces dates. Pourquoi? Parce que tous les ans, on le rappelle. Tu sais, tu appartiens à Dieu. Tu sais, tu es le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est venu habiter dans ton cœur. Moi, à l'âge de 5 ans, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, ma mère a témoigné le 27 septembre 1961. Elle a témoigné qu'il y a eu un changement. Un changement dans ma manière de faire. Moi, j'étais quelqu'un qui aimait provoquer mes frères et sœurs aînés. Je les provoquais à la colère pour qu'ils me tapent. Et après, j'allais me plaindre. Mais le lendemain, je faisais la même chose. Et là, ma mère a dit, mais il y a eu un changement. Un changement. Alors, est-ce qu'un enfant de 5 ans peut changer? Oui, il peut changer. Est-ce qu'un enfant de 6 ans, 7 ans peut réfléchir différemment? Mais oui, il peut. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est présente. On parle de comment Dieu change des vies. On parle des témoignages de ce que Dieu fait dans le cœur. Mais le jour vient, quand l'enfant grandit, il entend dire que tous ses amis à l'école, entre 16 ans et 18 ans, ne sont plus vierges. Tout le monde a déjà eu affaire à la sexualité. Papa, maman, pourquoi dois-je rester pur? Pourquoi dois-je rester vierge? Pourquoi dans un monde qui est assailli par toutes sortes de tentations, aujourd'hui avec l'Internet, les tentations, on a parlé par rapport à la pornographie hier, on a parlé par rapport à la manière comme on se fait séduire. La Bible dit que Dieu ne tente personne, il peut être tenté par personne, mais on est tenté quand on est amorcé par notre propre convoitise. En nous, il n'y aura que la convoitise, sauf si la parole de Dieu prend la place et balaye la convoitise. Et quand on est tenté, on se tourne vers l'intérieur et on essaie de chercher donc un appui pour ne pas tomber dans la tentation. C'est pour ça que c'est intéressant, mais il y a des fois quand on passe par un moment difficile et on ne lit pas la Bible pendant un certain temps, et là le diable vient nous tenter. Et on essaie de se rappeler du verset que le pasteur ou l'intervenant a utilisé il y a 3 semaines. Ah, c'était un très bon message, mais je ne rappelle pas quel est le verset. C'est pour ça que c'est bien de prendre des notes. Alors, des fois, il faut savoir que si on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, la convoitise, la corruption de ce monde va prendre plus la place en nous. Et quand on aura besoin de nous ressourcer, quand on a besoin de nous retourner à l'homme intérieur spirituel pour pouvoir faire face à toutes sortes de tentations, si on n'est pas rempli de la parole de Dieu, on va être amoncé, on va être attiré. Et la Bible dit, lorsque le péché est conçu, la mort, dans tous les domaines. Alors nous sommes dans un monde dans lequel nos enfants sont la cible de l'immoralité, la cible du mensonge, de la tricherie, la cible pour faire que nos enfants gaspillent leur temps. Nous entendons la voix de l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 5, verset 17, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Et aujourd'hui, les jours sont mauvais. C'est à nous de veiller à ce qu'on rachète le temps, à ce qu'on donne notre temps à Dieu, à ce qu'on donne nos pensées à Dieu, à ce qu'on amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On sera protégé de ce monde qui essaye de nous trompés, qui essayent de nous piéger. Papa, maman, pourquoi dois-je rester pur? Pourquoi dois-je me garder sexuellement jusqu'au jour de mon mariage, quand je pourrais offrir ma virginité à mon mari, à ma femme, après la cérémonie, après la fête? Avec une certitude dans notre cœur que même si on a été tenté dans les moments, en tant que fiancé, en tant que pré-fiancé, Dieu nous a aidés, il nous a gardés, et surtout, nous sommes redevables à nos parents concernant ce qui se passe dans nos vies et sur nos corps et dans nos corps avant le mariage. Oh là là, mais Marc, tu es tombé de quelle planète? Vous savez, il y a des pasteurs qui pensent comme ça. De 450 pasteurs qui ont été interviewés, un sondage, 60% disaient rien contre la fornication. Qu'est-ce que c'est la fornication? La fornication, c'est la relation sexuelle entre deux personnes non mariées. C'est-à-dire, ceux qui habitent au concubinage, sans être mariés, ils sont en fornication. Quand quelqu'un vient au sein de notre église, ils viennent à Christ, ils veulent commencer à grandir en tant que disciples de Jésus. Et on a eu ce cas de figure à plusieurs reprises. Les personnes venaient et disaient, oui, mais je suis en concubinage avec quelqu'un. Ah, mais tu sais, le concubinage, ça ne cadre pas avec la Bible. Il va falloir que tu prennes des décisions. Si tu veux Christ dans ta vie, ce n'est pas en restant dans le concubinage que tu vas arriver à mener une vie de disciple et de sanctification. 90% des pasteurs ne parlent pas contre les relations sexuelles prémaritales. Moi, je me rappelle, un pasteur m'a dit, dès que le couple est fiancé, c'est entre eux et Dieu. S'ils sont en train de coucher, s'ils sont en train de, voilà, de tricher et tout, ça c'est entre eux et Dieu, ils répondront à Dieu. Je dis, attends, si le péché est accueilli au sein de l'Église, si le péché est toléré au sein de l'Église, mais l'Église va commencer à subir et à souffrir les conséquences de ce péché. Qu'est-ce que la Bible dit en Hébreux chapitre 12 et verset 15? Qu'aucune racine d'amertume vienne vous priver de la grâce de Dieu, l'amertume, de peur que vous n'infectiez pas les autres. Donc, quelqu'un qui est amer risque d'infecter les autres avec cette amertume. Quelqu'un qui est dans un péché prémédité, parce que quelqu'un qui vit en concubinage, c'est quelqu'un qui est dans un péché prémédité. Quelqu'un qui est dans un péché dans lequel il pratique le péché. La Bible dit que ceux qui sont de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu, ne pratiquent plus le péché. Oui, mais tu dis oui, mais la réalité c'est que quelqu'un se convertit et il y a toutes sortes de péchés dans lesquels on peut tomber, il y a toutes sortes de péchés dans lesquels on peut être faible et on peut tomber dans ces péchés. Oui, mais celui qui est né de Dieu ne pratique plus. Il n'a plus la pensée, je vais pratiquer le péché. C'est différent. Des fois, oui, la Bible dit qu'on pêche tous d'une manière ou d'une autre. Avec la langue, avec la pensée, avec nos actes, on pêche tous d'une manière ou d'une autre. On sait que la repentance est là. Si quelqu'un a péché, la Bible dit, 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2, nous avons un avocat auprès du Père, nous avons le pardon en Christ, oui. Mais si on est pardonné, c'est pour nous retourner et commencer à vivre une vie nouvelle. Donc quelqu'un qui est en concubinage, qui vient au sein de l'église et qui veut s'approcher de Dieu et qui veut marcher avec le Seigneur, il va falloir qu'à un moment donné, on lui dise, mon frère, ma soeur, vous n'êtes pas dans une situation légale, acceptable de Dieu, par Dieu. Et donc, il va falloir que vous compreniez, par la connaissance que vous aurez, que vous ne pouvez plus continuer à vivre dans le péché. Et 70% de ces pasteurs ne prêchaient jamais contre l'homosexualité. Ne mentionnez jamais l'homosexualité. Le jour viendra quand des pasteurs, il y a des pasteurs déjà, qui sont en prison parce qu'ils ont osé parler de l'homosexualité. D'après un autre sondage, 60% des jeunes vivent déjà une sexualité. 70% des hommes commettent l'adultère. C'est horrible à y penser. Mais moi, je connais des femmes non chrétiennes qui me disaient, mais on s'est marié et on savait qu'on allait être infidèles l'un à l'autre. Parce que dans l'Église, cela ne convient pas à des saints. On n'en parle même pas d'adultère. Et pourtant, la Bible dit qu'on peut commettre l'adultère avec la pensée. Donc, attention. Attention à mettre des filtres et à mettre des garde-fous par rapport à nos téléphones, par rapport aux ordinateurs, par rapport à tout. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se cacher et fuir. Des gens mettent des filtres, il y a d'autres choses qui sont plus puissantes que les filtres. Alors c'est à nous de déterminer ce que nos enfants vont commencer à accueillir au niveau de leurs pensées, de leurs yeux. C'est à nous de savoir ce que nos enfants regardent. Moi, je vous encourage, ne permettez pas que vos enfants aient des ordinateurs, des mini-iPads, des iPads, des smartphones dans leur chambre. Ils se réveillent la nuit et immédiatement la tentation peut être là. Est-ce qu'ils vont avoir la force de résister? Est-ce que parce que vous avez pu parler avec eux et les mettre en garde, est-ce qu'eux, ils vont savoir? Non, je ne veux pas mettre quelque chose d'inique devant mes yeux. Non, je ne veux pas arriver au jour du mariage et quand j'aurai le droit de regarder la nudité de ma femme ou de mon mari, je ne ferai que penser à toutes les images et me rappeler de tout à quoi je me suis exposé. Alors, papa, maman, pourquoi dois-je rester pur? Quelle est la valeur du fait que je reste pur? 2 Corinthiens 11, 2. L'apôtre Paul, il dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Bien sûr, il parle de l'Église. Bien sûr, c'est spirituel ce qu'il est en train de dire. Moi, j'aimerais que vous preniez ce verset et que vous l'appliquiez à votre vie en tant que parent et dire, c'est ma responsabilité de te présenter à ton futur mari un jour, ta future femme un jour, comme une vierge, un vierge pur. Qu'est-ce que c'est la virginité? L'état d'une personne vierge, pureté, candeur, innocence. C'est dit d'une personne qui n'a jamais eu de relation sexuelle. On voyait hier qu'il y a un sondage fait par Huffington Post. Il y a des enfants de 8 à 10 ans qui sont accros à la pornographie. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi au sein de nos foyers. Ces choses ne conviennent pas à des saints. Mais dans le monde, aujourd'hui, il n'y a plus de limites. Je vais vous choquer, mais un jour, Brian est revenu de son école. Il était en troisième. Il dit, voilà, il y a une fille qui m'invite à venir coucher chez elle ce week-end. Ah bon? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Mais qu'elle était folle, quoi, de penser que j'allais venir coucher chez elle. Ah mais oui, parce que mes parents permettent que j'amène un garçon une fois par mois. Et qu'à l'âge de 18 ans, je pourrais faire mon choix. Malheureusement, cette famille ne connaissait pas les voies de Dieu. Éteint d'une personne qui n'a jamais eu de relation sexuelle, qui n'a jamais vu la nudité d'autrui. La Bible dit « Fuis l'impudicité ». Qu'est-ce que l'impudicité? Découvrir la nudité de quelqu'un dont on n'a pas le droit. Et on n'a pas le droit de découvrir la nudité que de notre mari ou de notre femme, c'est tout. Et dans un cadre pur du mariage, car c'est Dieu qui a offert le cadeau de la sexualité au mari et à la femme. Et si on triche avant, vous savez, c'est un cadeau, mais si on commence à toucher le ruban et on commence à défaire le ruban avant le jour du mariage, vous aurez des regrets. Un jour, vous allez être obligé de dire à vos enfants, mais oui, vous savez, on avait l'enseignement, on avait la parole de Dieu, mais on a triché parce que ton enfant m'a dit, papa et maman, est-ce que vous êtes restés purs jusqu'au jour du mariage? Est-ce que vous étiez vierge le jour de votre mariage? Est-ce que vous avez, en grandissant dans la foi, vous avez compris qu'il y avait une grande valeur au fait que vous étiez temple du Saint-Esprit Et en tant que temple du Saint-Esprit, on ne pouvait pas contaminer ce temple. Bien sûr, il y a des personnes qui sont venues à Christ après avoir vécu des années sans Christ. Ça, c'est autre chose. Mais même, j'aimerais vous dire, il y a des personnes qui aimeraient dire, mais moi, j'aimerais regagner ma virginité. Excusez-moi, mais les conséquences de votre vie sans Christ, les conséquences d'une vie de péché, si vous avez perdu votre virginité, Dieu va vous pardonner, mais une des conséquences de votre péché, c'est que vous n'allez pas pouvoir dire à votre futur mari, votre future femme, voilà, je suis pur. Comme il y a, on a parlé par rapport à l'avortement hier, combien de mères célibataires, mais ce n'est pas parce qu'elles se sont converties que Dieu a effacé l'enfant. C'est une conséquence. Dieu pardonne, c'est sûr. Mais il y a des personnes qui doivent vivre avec des conséquences. Dieu enlève toute condamnation. Mais il y a des réponses à donner concernant quand on ne connaissait pas Christ. Mais si tu as eu la joie et le privilège de grandir dans la foi, de grandir depuis ton enfance, avec la parole de Dieu comme racine dans ta vie, dans ton cœur, et que tu as suivi les ordonnances de Dieu, tu as suivi les conseils de tes parents, tu as suivi les conseils des hommes de Dieu, des femmes de Dieu dans ton entourage, il n'y a pas de raison que tu arrives au jour du mariage avec des regrets. Alors je sais que je parle à ceux qui sont vierges et qui garderont bien leur corps pur jusqu'au mariage. Je sais que je parle aussi à ceux qui ont perdu leur virginité sans avoir connu le Seigneur. Et là, on ne peut pas vous reprocher. Et Dieu, dans sa tendresse et dans son amour, il montre qu'il t'aime et qu'il va prendre soin de toi. Je parle à ceux qui ont perdu leur virginité après avoir connu le Seigneur. Et là aussi, il y a plus de condamnation. Mais est-ce que tu as vécu une vraie repentance? Est-ce que tu as vraiment brisé ton cœur devant le Seigneur? Et tu as dit, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je ne veux pas passer à côté de ton plan merveilleux. Et aussi, je parle à des parents qui travaillent avec toute leur force et avec Dieu, et avec l'aide de Dieu pour protéger ta virginité. Alors, c'est la femme qui a le pouvoir de la sexualité entre ses mains. Pourquoi ? Parce que sauf si la femme se place dans une situation où il pourrait y avoir un viol, combien de jeunes femmes sont allées en discothèque, un jeune homme les a fixé du regard, a mis quelque chose dans leur boisson, et elles se réveillent moitié dénudées quelque part. Elles ne savaient même pas que quelqu'un avait atteint contre leur personne, ne savaient même pas que quelqu'un les avait endormis par une potion de quelque chose. Ça, c'est un témoignage que vous entendez, et c'est l'histoire dans le monde entier des viols, donc non consentis. Horrible, horrible, horrible. Mais le moment vient quand une question est posée, et la question est posée à la jeune femme, ou la suggestion est faite à la jeune femme. Alors, quelle est la réponse qu'elle doit donner? Je vais vous donner quelques exemples. Comment dire non à la manipulation, à la séduction? Si tu m'aimes vraiment, dit le jeune garçon, tu me montrerais en m'offrant tout ton amour. Et elle répondrait, si tu m'aimais vraiment, tu me le démontrerais en ne me demandant jamais d'aller contre mes convictions. Cela fait tellement mal de t'aimer à tel point sans pouvoir te l'exprimer. Mon œil. Entièrement. Je suis tellement frustré. Mais l'amour vaut bien des sacrifices. Oh, cela fait agrandir notre amour. Oui, ça me gêne énormément d'y penser, mais il pourrait bien y avoir un bébé dans mon estomac, dans cette idée de faire grandir. Mais toutes les autres le font. Mais qu'est-ce que tu attends? Sors avec les autres. Moi, je n'ai pas des autres. Tu ne penses pas que notre amour le justifie? Non. Plutôt, si notre amour est vrai, cela justifie notre attente jusqu'au mariage. C'est pour ça que quelqu'un qui est en relation avec un non-chrétien, tôt ou tard, moi je connais des situations dans lesquelles la jeune femme essaie de me dire, c'est pas quelqu'un de l'église, ne vous inquiétez pas, la jeune femme me dit, Des fois, il y a des personnes qui viennent me demander des conseils parce que leur pasteur est trop dur, donc ils viennent me voir moi pour essayer de voir s'il y a une tolérance. Et ils me disent, non, mais bon, on est très amis, voilà, donc il est tellement gentil, il m'accompagne à la maison chaque fois qu'on se voit, donc à la maison, donc chez mes parents, il est tellement gentil et tout. Mais non, mais il m'a dit qu'il me respecte. Le jour viendra quand il va commencer à te poser des questions telles que, et qu'est-ce que tu vas dire? C'est pour ça que la Bible dit, ne te mets pas en joug avec un infidèle. Ne te mets pas en joug avec quelqu'un qui est dans les ténèbres. Parce que tôt ou tard, et combien de fois j'ai dit à la jeunesse, tôt ou tard, cette personne sera un instrument dans les mains du diable pour te faire chuter. Pourquoi? Parce que tu ne sais jamais dans quel état d'esprit tu vas rencontrer la personne, homme ou femme, et quelles seront leurs intentions. On continue avec les exemples. Mais où est le mal dans quelque chose de si tendre et romantique que les rapports? Mais justement, certes les sentiments liés à l'acte de l'amour seraient plaisants. Ce qui m'inquiète, ce sont les sentiments une fois que l'amour soit parti. Mais on va se marier un jour. Qu'est-ce que ça change si on fait l'amour avant ou après la cérémonie? Peut-être la même comparaison à ce qu'une personne pratique la médecine avant ou après avoir été à la faculté de médecine. Mais personne n'est vierge dans notre société. Ah donc, je suis personne pour toi? Merci. Oh, t'inquiète pas, on ne dépassera pas les limites. On s'arrêtera à temps. Ah. Tu te trompes. Rien que dans ce que tu me dis, on a déjà dépassé les limites. Je m'en vais. Mais on ne le fera qu'une seule fois. Mais justement, c'est là où ça coince. Quand je le ferai une seule fois, ça sera le commencement après le mariage, d'au moins 1000 fois avec la même personne. Mon corps n'est pas un objet. Je ne suis pas à être tripoté par 20 personnes. Ah non, j'ai ma dignité, j'ai ma prestance. Je suis quelqu'un. J'ai mon respect. Mais je t'assure, je ferai tout pour que tu ne tombes pas enceinte. Non, laisse-moi le soin. Je sais que je ne tomberai pas enceinte en utilisant la méthode la plus sûre, l'abstinence sexuelle avant le mariage. Mais tu risques de me perdre, hein, si tu compliques les choses comme ça. Est-ce une menace? Perdre quelqu'un qui me fait des menaces serait plus un gain qu'une perte. Ciao! T'as pas compris? Ciao! Et en passant, une gifle. Non. Mais, moi je disais à mes sœurs, je n'ai pas dit ça à mes filles, mais je disais à mes sœurs, si quelqu'un essaye de s'approcher de toi, il a des mauvaises attentes, tu lui donnes une bonne gifle et tu cours. Alors, pourquoi est-ce que je dis que le pouvoir est dans les mains et les réponses de la femme? Parce que sauf si tu as quelqu'un devant toi qui veut arriver à ses fins, en commettant un crime, tu as la chance de dire « C'est moi qui commande ici. » Et mon corps appartient premièrement à Dieu, ensuite à mes parents et ensuite à moi-même. Donc, si tu veux me toucher, tu vas parler avec mon père. Mais non. Alors pourquoi on dit non au rapport sexuel avant le mariage? Dieu nous ordonne d'être purs. 1 Corinthiens 6, 13, le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Attendre permet de développer une amitié. Des fois, il y a des personnes qui sont tellement hâtives. Ah, mais on a eu le coup de foudre. Voilà, nous, on est vraiment soudés, c'est formidable, rien ne va nous séparer. Et où est l'amitié? Où est le temps pour développer une amitié? Où est le temps pour développer un contact, pour avoir confiance? Ce n'est pas la fusion des corps qui compte, parce que la sexualité, ça vient et ça part. C'est la vie. Pourquoi on dit non? Parce que les cicatrices, ou au cas où on rompt les fiançailles, on avait annoncé les fiançailles. Là, on a pêché, bon, il n'y a pas de bébé, mais on a pêché. Et 2-3 semaines après, le couple s'est dit, tu sais, il vaut mieux qu'on se sépare. Et qu'est-ce qui se passe? Les cicatrices. Les traces dans le cœur. La Bible dit que quand un couple unit leur corps, c'est une union, une fusion de corps, âme et esprit. Je disais hier aux jeunes, en parlant de comment Dieu nous appelle à l'abstinence sexuelle avant le mariage. Aujourd'hui, il est prouvé que si quelqu'un va en discothèque, vous dites oui, mais si quelqu'un va en discothèque, il peut aller danser pendant 3 heures sans penser mal, sans penser de choses mauvaises. Mais ils sont à la recherche de quelqu'un avec qui finir au lit. Il est prouvé que en allant au lit avec la personne, puisque la pratique sexuelle est tellement répandue dans le monde aujourd'hui, puisque le changement des partenaires sexuels est tellement répandu dans le monde aujourd'hui, ce jeune homme pense qu'il va coucher avec une jeune fille qui est, voilà, qui est gentille, etc. Il l'a visée avec son regard. Mais elle a couché avec un moyen de 10 hommes pendant les 3 dernières années. Et que quand lui, il va coucher avec elle, ne la connaissant pas, voyant son corps, étant excité sexuellement, etc., il va coucher potentiellement avec 30 maladies sexuellement transmissibles, déjà. Et aussi, il va coucher avec des liens. Parfois des liens d'âme, etc. Toutes ces choses, c'est pour ça qu'on dit à nos enfants, vous savez, vous n'avez pas besoin de toutes ces complications. Déjà, quand vous vous marierez, il faut s'ajuster l'un à l'autre, il faut s'habituer à être l'un avec l'autre, il faut s'habituer à être l'un avec l'autre presque 24 heures sur 24, etc. Alors vous n'avez pas besoin des complications par rapport à ce que le monde vit. C'est un péché contre ton corps. 1 Corinthiens 6, 18 à 20 nous dit, c'est un péché contre ton corps. Et quand tu pêches contre ton corps, tu pêches contre le corps de Christ. Ah non, mais attends, je ne suis pas si engagé que ça. Ça, c'est ma vie personnelle. Je n'ai des comptes à rendre à personne. Par rapport à ce que je vois sur Internet, par rapport à quoi je m'expose. Je n'ai besoin de rendre compte à personne par rapport à ce que j'ai fait de mon temps. Du moment que tu sors de la porte de chez toi, jeune homme, jeune femme, quand tu reviens à la maison, tu as des comptes à rendre. Et peut-être Dieu a révélé à tes parents ce que tu as fait. Peut-être Dieu a révélé des secrets à leur cœur. Et il te confronte. Et par ton visage, il se rend compte que tu ne peux pas le nier. Alors, il vaut mieux être droit. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas pécher contre Dieu. On ne veut pas pécher contre le corps de Christ. On ne veut pas pécher contre les membres de notre corps. Alors, nos enfants ont besoin de savoir que Dieu leur donnera le moyen de s'en sortir d'une tentation. S'ils crient vers lui, il viendra les secourir. Aucune tentation ne vous est survenue avec laquelle Dieu ne vous donnera pas l'issue. Quelle est l'issue? La parole de Dieu. Quelle est l'issue? Les promesses de Dieu. Quelle est l'issue? Les ordres que Dieu a donnés. Il faut que nos enfants se sentent en sécurité. Il ne faut pas que nos enfants aient honte de venir nous voir et nous dire « Papa, maman, j'étais tenté dans un domaine, dans un autre. » Le fait que tu sois tenté ne veut pas dire que tu as péché. Si tu as résisté, alléluia. Mais oui, mais c'est un combat. Prie pour moi, il y a quelqu'un qui me suit donc à l'école, il y a quelqu'un au travail qui ne me lâche pas, etc., qui me fait des insinuations. Il faut que vous priez pour moi. Et aussi le mari, marié avec sa femme, des fois aussi, il faut que lui, il dise à sa femme « Prie pour moi, chérie. » Parce qu'il y a... Le diable est à la porte et il veut me tenter. Il faut que tu pries pour moi, ne sois pas inquiète, mais sache que j'ai été tentée. Mais oui, il faut parler. Pourquoi? Parce qu'on veut que les œuvres de l'esprit soient évidentes dans notre vie. Ce n'est pas les œuvres de la chair. Galates 5, 19, 21, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, c'est le premier. Qu'est-ce que c'est l'impudicité? S'offrir un regard sur des choses impur devant Dieu. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 au verset 8. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 au verset 8. Nous sommes donc appelés à nous garder, à veiller sur nous-mêmes. On reste frère puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Je me rappelle une fois, on n'avait pas la télé pendant de longues années. Et une fois, on avait loué la télé pour les Jeux Olympiques. Alors, tous les enfants étaient contents, on allait regarder les Jeux Olympiques. Et tout d'un coup, il y a une pub d'une femme, presque nue frontalement. Et bien, il me dit, mais papa, comment est-ce qu'on a osé de permettre une telle image chez nous? Mais les Jeux Olympiques sont partis par la fenêtre et j'ai rendu la télé. Oui, 5h d'après-midi quand même, c'était pas minuit. C'était... Alors, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce que personne n'use envers son frère, du fraude et de la cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance et toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est la passion? Je ne peux pas me passer de. On encourage tous les couples non mariés dans notre église locale, et ça a été toujours notre devise. Jamais dans un appartement seul. Jamais dans une chambre seule. Jamais dans la pénombre à 11h du soir, serrés l'un contre l'autre, regardant un film chez un, dans son appartement à lui ou à elle. Jamais. La Bible dit, fuis toute apparence de mal. La Bible dit, il faut fuir les tentations. Oui, mais vous n'avez pas confiance en nous. On est chrétiens, on est nés de nouveau. On sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et comme on a dit à nos enfants, ce n'est pas qu'on n'a pas confiance en vous, on n'a pas confiance en la chair. Et c'est pour ça qu'il y a des règles à respecter. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une soumission envers ce que les parents disent. Parce qu'ils savent la meilleure chose pour toi. Et dans tous les domaines, il faut être à l'écoute. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Est-ce que Dieu nous aime à tel point qu'il viendrait nous titiller par rapport à nos pensées, par rapport à nos actes, par rapport à nos gestes, par rapport à nos réflexions, par rapport à quoi on pense la dernière minute avant de s'endormir? Je ne veux pas vous choquer non plus, mais c'est un fait, c'est un sondage qui est fait, et c'est dit souvent, j'ai entendu à la radio, l'homme charnel, je ne pense pas que ce soit l'homme chrétien né de nouveau, mais l'homme charnel dans le monde, sur la face de la terre, ils ont prouvé par les psychiatres, les psychologues, ils pensent à la sexualité chaque 7 secondes. Chaque 7 secondes, imaginez. Malheureusement, il y a des personnes qui sont dans une société, une génération, où les gens pensent qu'à ça. Nous, nos pensées, pensez à ce qui est vrai, juste, pur, aimable, honorable, vertueux, digne de louange, qui a prouvé des dieux. Pense à ces choses. Amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je refuse d'aller dans le sens de ce monde. Et Jésus parlait de la pensée. Il disait, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Ce n'est pas le fait de passer devant un kiosque. Je me rappelle une fois, il y avait donc un vendeur de revues ici, et il y avait une loi, lorsque Mitterrand arrivait à la fin de son mandat, qu'il ne fallait pas montrer la nudité dans les magasins. Et donc c'était un lieu où on achetait des... Voilà, il n'y avait pas Office Depot à l'époque, donc on achetait voilà, des scotch, on achetait des choses comme ça. Et je suis rentré un jour et j'ai vu qu'il y avait tout un étalage des hommes nus, des femmes nues. J'ai dit, monsieur, la loi nous dit que vous ne devez pas permettre que mes enfants voient ça dans votre magasin si je viens avec. Il les a enlevés. Hein. Pourquoi? Parce que ce n'était pas juste. Mais quel est le péché? Le péché n'est pas le fait de passer devant le kiosque et par mégarde, regarder et voir qu'il y a une femme nue sur une couverture. Le péché, c'est de revenir. Le péché, c'est de trouver l'excuse de revenir. Vous savez, il y a des choses qu'on ne cherche pas. Et ces choses qu'on ne cherche pas, on n'a pas péché. Mais quand on revient, et c'est pour ça que les dangers de la pornographie sont tellement, tellement imposantes. Parce que les personnes commencent par des choses simples. Des corps dénudés, mais bon, c'est pas frontal, donc c'est pas grave. Mais c'est dénudé. Hein? Vous savez où arrive la pornographie? Je vais vous choquer. Mais en Thaïlande et en Philippines, ils produisent des films pornographiques où les acteurs sont mis à mort pendant l'enregistrement. Ça s'appelle Snuff Movies. Et c'est une entreprise très, très, très riche sur la face de la Terre aujourd'hui. Tout a commencé par des choses simples, ça a dégringolé, jusqu'où? Et comme en Proverbes chapitre 7, il y a ce jeune homme qui se promène, qui passe à l'angle de la rue, où il aperçoit une femme, et après il s'approche d'elle, donc ça c'est la continuité, il s'approche d'elle, elle vient lui dire, tu sais, mon mari est parti, voilà, mon lit est fait, etc. Elle va le séduire, il va avec elle. Et à la fin de ce passage, il dit, sans savoir que c'est au prix de sa vie, sans savoir que c'est au prix de son âme, qu'il s'est fait séduire, qu'il s'est fait avoir. Alors, nous avons des sauvegardes, nous avons des avertissements, nous avons de pouvoir offrir à nos enfants l'amour, l'affection, la pureté dans nos paroles. Pouvoir parler de la sexualité avec des versets de la Bible. Ne pas avoir honte de parler et de leur dire, voilà, les choses sont comme ça. Mais tu sais, ne t'inquiète pas. Un jour, tu vas pouvoir vivre cette sexualité dans le cadre du mariage. Quand Brian, à l'âge de 9 ans, il est venu me dire des choses qu'il avait entendues à l'école, je me sentais tellement mal que je devais briser son innocence et lui parler de la sexualité. À 9 ans, oh, mais j'étais furieux. Je me disais, mais non, il est innocent. Mais il avait entendu tellement de choses tordues qu'il a fallu que nous, on leur donne une image correcte. Tu ne veux pas que ta fille aille chercher l'affection, l'amour ailleurs? Mais donne de l'affection et de l'amour. Tu ne veux pas qu'elle aille chercher de l'attention ailleurs? Donne-lui de l'attention. Tu ne veux pas qu'elle aille chercher de l'affirmation ailleurs? Des bras pour la sécuriser? Mais donne-lui ses bras pour la sécuriser. Ça, c'est tout simplement, écoutons le conseil de la parole de Dieu. Soyez affectueux les uns envers les autres. Les enfants ont besoin de savoir qu'ils sont aimés. Ils ont besoin d'entendre Dieu dire, je t'aime, tu es précieux à mes yeux. Je prie pour toi tous les jours. Qu'est-ce que le cadeau le plus important qu'on pourrait offrir à nos enfants? Je prie pour toi tous les jours. Et laisse-moi prier pour toi. Et viens, et donc je te serre dans mes bras et je prie pour toi. Aucun parent n'est parfait. Mais nous avons le conseil de la parole de Dieu afin que nos enfants considèrent que la virginité est un honneur pour l'homme et la femme. Dieu nous a créés. C'est pour ça que quand les enfants étaient petits, des fois, et on leur disait, tu ne laisses que personne te touche dans tes parties privées. Tu ne laisses que personne s'approche de toi. Et si quelqu'un le fait, tu viens nous voir. Parce que des fois dans les écoles, il y a des fois des choses qui peuvent se passer. Il faut qu'on parle de ces choses. Il faut qu'on leur dise, vous savez, Dieu nous a donné un travail en tant que sentinelle et on va veiller sur ta virginité. On va veiller sur la pureté dans ta vie. On est là. Pourquoi? Parce que je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, disait Paul, comme je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà, je voulais donc aborder ce sujet. Ça fait partie de ce séminaire. J'espère que vous, en tant que parents, pour ceux qui ont des enfants dans l'église, et peut-être vos enfants même sont grands, peut-être il y a des choses dont vous aimeriez revenir à parler et à partager. Mais laissez-les savoir qu'ils sont précieux aux yeux. Laissez-les savoir que ce qu'ils vont vivre après le mariage est précieux aussi à vos yeux. Il ne faut pas avoir de regrets sur des choses dont on est averti. Et le Seigneur vient pour nous rassurer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Aucun conseil. Nous avons tout ce qui contribue à la vie et la piété ici, dans ce livre. Les instructions, le conseil est là. Alors, fions-nous à la parole de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions parce que nous sommes un peuple de Dieu. Un peuple de Dieu qui a des valeurs. Un peuple de Dieu qui a des principes. Un peuple de Dieu qui cherche à ce que tu sois honoré dans nos vies et dans nos cœurs. Je te demande, Seigneur, que pour ceux qui auraient des regrets ce matin par rapport à ce message, je te demande, Seigneur, qu'ils puissent trouver en toi le solace, trouver en toi la sécurité, la paix, le pardon. S'il y a des personnes, Seigneur, qui sont tombées dans des pièges dans ces dernières semaines, dans ce domaine, qu'ils puissent se repentir et venir devant toi et te dire, Seigneur, purifie mon cœur. S'il y a ceux, Seigneur, qui sont piégés par la pornographie aujourd'hui, je te demande, Seigneur, qu'ils puissent le confesser et dire, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'un frère qui soit à mes côtés pour me demander, alors, tu m'as dit que ça fait une semaine que tu n'es pas tombé dedans. Ça continue. Et 2 semaines après, oui, j'ai la victoire. Et 3 semaines après, oui, j'ai la victoire. Et merci, mon frère, parce que tu pries pour moi. Parce que tu intercèdes à ma faveur. Merci parce que tu prends soin de moi. Merci parce que tu veilles à ce que ma vie soit selon la pureté que tu nous présentes. Je te demande, Seigneur, que peut-être ce message nous amènera à avoir des conversations importantes, primordiales, essentielles dans nos foyers. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si nous sommes le temple du Saint-Esprit, rien ne peut nous violer. Rien ne peut nous contaminer. Seigneur, aide-nous, Seigneur, dans les moments de faiblesse, dans les moments, Seigneur, de découragement. C'est là où le diable vient avec toutes sortes de tentations. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir résister le jour mauvais, alléluia, à prendre l'armure que nous trouvons en Éphésiens chapitre 6. Et que vraiment, Seigneur, par notre vie, tu sois glorifié. Protège nos ados, nos pré-ados, protège nos jeunes, protège nos jeunes adultes, protège nos frères et sœurs célibataires, garde-les. Sois, Seigneur, présent d'eux, auprès d'eux, Seigneur. Lorsque les moments de solitude viennent, Seigneur, et ils attendent, Seigneur, oh Dieu, ils attendent de voir ce que toi, Seigneur, tu as pour eux. Je te demande, Seigneur, qu'ils ne se découragent pas. Je te demande aussi, Seigneur, que c'est au sein de la famille de Dieu que des couples naissent. C'est au sein de la famille de Dieu que des familles peuvent se lever pour continuer à porter cette bannière de pureté et de sainteté devant tes yeux. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous aimes et tu prends soin de nous. Merci parce que si ton regard est sur le moineau, à combien plus forte raison tu prends soin de nous. Nous nous remettons à toi. Nous recommandons notre sort à toi. Au nom de Jésus. Amen.